franceinter.fr.
Que s'est-il passé en Alsace à la fin du néolithique? La découverte de traces d'un massacre particulièrement violent intrigue les archéologues.
Les multiples découvertes de sépultures, avec des traces de morts violentes, montrent que les conflits faisaient aussi partie de la vie de ces premiers paysans sédentaires. L'étude des squelettes de victimes souligne que pour se battre, les hommes utilisaient encore des armes rudimentaires. Arcs de chasse, gourdins ou encore outils détournés de leur fonction première, comme les haches polies.
Et c'est la deuxième fois en quelques années que des scènes de massacres très violents sont mises au jour par les archéologues. Il s'agit cette fois de 6 squelettes d'hommes fracturés et morts, donc il y a plus de 6000 ans. Philippe Lefranc, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes avec nous par téléphone, vous êtes spécialiste du néolithique, archéologue à l'INRAP et responsable de ce site, co-découvreur de cette scène, donc avec l'anthropologue Fanny Chenal. Est-ce que vous pouvez nous décrire ces 6 squelettes, Philippe Lefranc?
Oui, alors Fanny, vous en parlerez beaucoup mieux que moi, mais elle est malheureusement dans un avion, donc je vais essayer d'être à la hauteur.
Ouais.
Nous avons trouvé 6 individus complets, déposés sur le fond d'une fosse de stockage, on y reviendra peut-être. 6 individus qui sont 5 adultes et un adolescent, et qui sont tous de sexe masculin. En plus de ces 5 individus, nous avons trouvé 4 bras gauche, surnuméraire, des bras coupés, qui n'appartiennent à aucun des individus cités, bien sûr des individus dont nous ignorons tout du sexe.
Comment est-ce que vous interprétez ces traces et ces membres cassés? C'est de la torture pour vous?
Alors, c'est assez compliqué, hein. On peut difficilement répondre comme ça directement. Tous les corps présentent effectivement des traces de coups qui sont assez impressionnantes. Les bras sont fracturés, les jambes sont fracturées, les côtes, les bassins, les crânes. Ça témoigne d'un véritable acharnement. Mais il y a 2 choses. Parler de torture, ça veut dire que les coups ont été portés sur des individus qui étaient vivants. Or ça, nous ne pouvons pas l'établir. L'ethnographie nous apprend que ce type de pratique est assez répandu. Les Iroquois, par exemple, étaient célèbres pour leur torture ritualisée. Mais si les individus étaient déjà morts au moment où les coups ont été portés, là, il s'agit plutôt d'un outrage au cadavre. Et ça aussi, c'est une pratique qui est bien attestée par l'ethnologie et qui vise là à humilier l'ennemi et à affaiblir son être surnaturel, voilà, pour l'empêcher de venir se venger. Ce sont des choses qu'on a lues. Je veux quand même préciser qu'on est au tout début de l'étude, donc on essaye maintenant de rassembler la littérature scientifique consacrée à ces sujets-là pour essayer de trouver quelle interprétation sera la plus, la meilleure, quoi.
Qui sont ces hommes qui vivaient en Alsace il y a 6000 ans? On en sait un petit peu plus sur eux?
Dans quel sens? Vous voulez parler de la violence ou
Non, le cadre de la découverte...
On est au néolithique, donc on est en pleine sédentarité là pour ces hommes, a priori?
Oui, bien sûr, oui, ce sont des cultures, ce sont des paysans, ce sont des cultures paysannes, sédentaires, avec un système économique basé sur l'élevage et sur l'agriculture. Voilà.
Mais des traces de violence de cette sorte, pourquoi elles vous étonnent tant que ça dans ce type de société?
Alors, ce type de violence ne nous étonne pas tant que ça dans ce type de société. Ce n'est pas la première fois qu'on trouve des traces de massacres néolithiques. Certains sites de massacres sont célèbres, ils sont datés de la fin du 6e millénaire. On en connaît 4 pour le moment où on pense que des populations entières ont été décimées. C'est-à-dire qu'il y a 30, 60 victimes. La guerre est présente dans toutes les sociétés traditionnelles, donc il n'est pas étonnant de trouver des traces de violence dans les sociétés préhistoriques.
Ouais. Est-ce qu'on peut imaginer justement la source des conflits entre ces différents camps à l'époque?
Il y a beaucoup de bonnes raisons de s'entretuer, notamment au néolithique, puisqu'au néolithique, il y a un accroissement démographique, une complexification sociale aussi, on produit des richesses, on produit du surplus, donc tout ça, c'est de bonnes raisons de se faire la guerre. Il faut bien distinguer un espèce de bruit de fond de la violence, elle est présente tout le temps. Jean Guilaine l'avait bien montré dans son livre de 2000, Le Sentier de la Guerre, il avait recensé plus de 50 sites en France qui avaient livré des traces de violence, des individus trouvés dans les nécropoles qui étaient fléchés ou qui montraient des fractures. Ça c'est un bruit de fond qu'on entend pendant tout le néolithique, et puis de temps en temps il y a de véritables pics de violence qui là témoignent de crises, probablement de véritables faits de guerre.
Vous avez espoir d'expliquer précisément ce cas-là et dans le cadre d'un conflit régional?
Oui, alors c'est vraiment une hypothèse, c'est une piste de recherche. Il faudra attendre de disposer de toutes les données pour pouvoir construire des hypothèses bien étayées. Mais je pense qu'on peut relier les dépôts macabres, enfin le dépôt macabre d'Arenheim à un autre dépôt qui est contemporain, une découverte qui a été faite à Bergheim, donc également en Alsace. On a aussi trouvé des bras coupés, et on peut relier ces dépôts à d'autres éléments qui sont l'apparition des enceintes défensives. Mmh. Et on peut aussi relier ça à la disparition un petit peu plus tard de la culture néolithique locale, qui est effectivement remplacée par un groupe dont le style céramique à ses prototypes dans le bassin parisien. Voilà. Donc on observe des ruptures qui sont très franches au niveau des styles céramiques, mais aussi au niveau des rites funéraires et même dans la géographie des habitats, hein, qui changent de place entre les deux périodes. Donc à mon avis, il n'est pas impossible qu'une situation de conflit ait été générée dans l'Alsace de la fin du 5e millénaire par l'arrivée de porteurs d'autres traditions. Voilà. Ceux-ci finissons d'ailleurs par gagner la partie.
Et ces squelettes sont plutôt des squelettes d'anciens Parisiens ou d'anciens Alsaciens ?
Oui, là on peut absolument pas répondre à la question, mais dans la encore faut-il que mon hypothèse ait quelques valeurs. Mais pour répondre précisément à cette question-là, il faudra attendre le résultat des analyses génétiques qui pourront peut-être nous permettre de préciser s'il existe un lien ou si justement il n'y a pas de lien entre la population locale, celle qu'on va trouver dans les cimetières, enterrée selon les rites funéraires de l'époque, et puis ces gens qui ont été massacrés et jetés pêle-mêle dans un silo. Là, on pourrait échafauder des hypothèses un peu mieux échafaudé. Oui.
Philippe Lefranc, une petite question qui m'intrigue. Qu'est-ce qu'il faisait avec les bras gauches? Alors absolument, il y a une obsession du bras gauche, hein, apparemment, dans ce que vous avez retrouvé.
Oui, c'est une spécificité alsacienne. Oui. C'est quelque chose d'assez
l'arrachage de bras gauche.
Oui, le bras gauche. Alors, évidemment, on ne le saura jamais, mais il est possible qu'il s'agisse là d'une signature. Les signatures de certains guerriers. Voilà, certains groupes vont couper les bras gauches, d'autres groupes vont couper les jambes. On connaît ça en Amérique, où les archéologues américains travaillent depuis assez longtemps sur ces sujets-là. Dans l'état du Kentucky, on va prendre les bras. Dans l'état voisin, on va prendre les jambes. Ce sont des trophées, hein, des trophées guerriers.
Spécialité
voilà,
régionale.
Le corps de l'ennemi, hein, voilà.
C'est sympa pour vous, parce que ça vous aide à travailler, du coup.
Oui, bien sûr, ça nous aide beaucoup. Il y a quand même une littérature qui existe sur ce sujet, oui. Mmh.
Philippe Brunon, on fait la guerre, mais on fait l'amour également au néolithique. Oui. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette période en particulier, extrait de votre histoire de la sexualité en bande dessinée, par exemple?
Oui, alors là, c'est plus difficile. Je connais bien les travaux de Jean Guilaine dont parle notre interlocuteur. C'est une période où on ne sait pas grand-chose sur les groupes. On peut dire que le mariage est à peu près inventé à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il y a un lien entre des êtres avec certainement une reconnaissance de la paternité. Ouais. Ce qu'il en est des comportements sexuels, là, je dirais qu'il y a pas, nous n'avons pas de traces et on peut pas en dire grand-chose.
C'est peut-être à cause du mariage qu'on se tapait dessus aussi.
Ah, mais certainement, certainement, parce que c'était ce qui permettait de structurer la société. Ouais. Et il y avait quelque chose qui a toujours été, c'était la rivalité entre des groupes proches et d'une certaine façon la xénophobie, malheureusement, ouais, est certainement un des grands traits de l'humanité. On essaie de la calmer, elle ressurgit toujours.
Merci en tout cas Philippe Lefranc pour vos explications et puis salut pour nous Fanny Chenal qui a participé avec vous à la découverte de ces 6 squelettes. Merci beaucoup de votre passage à l'Une de la Science.
Au revoir.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, certains sites de tests nucléaires seraient aujourd'hui moins radioactifs que Central Park. Il y a environ 70 ans, les États-Unis ont entamé une série de 67 essais nucléaires dans les îles du Pacifique, considérées depuis comme inhabitables. Des chercheurs de l'Université de Columbia à New York ont analysé 6 îles, dont 5 affichent des taux de radioactivité moyens de 0,4 millisieverts par an, des chiffres inférieurs à la limite d'exposition requise de 1 millisievert par an. À titre de comparaison, Central Park, donc, affiche une radioactivité annuelle relativement haute, proche de 1 millisievert, qui s'expliquerait par le granit sur lequel est bâti le parc, publication dans Science. Le poisson archer, réputé pour les puissants jets d'eau qu'il crache sur ses proies hors de l'eau, a démontré également son talent pour reconnaître les visages humains. Publié dans la revue Scientific Reports, des chercheurs ont appris à ce poisson à cracher sur un visage en particulier. Ils lui ont ensuite montré une série de faces humaines assez peu différenciées, dont faisait partie le premier visage. Eh bien, 8 fois sur 10, le poisson a craché sur le visage qu'il avait appris à reconnaître. Cette expérience suggère que la présence d'un néocortex, partie la plus élaborée du cerveau, n'est donc pas nécessaire pour reconnaître des visages. Et puis le module spatial gonflable de la NASA qui vient d'être déployé avec succès, fixé fin mai à la Station Spatiale Internationale. Cette sphère gonflable va être testée pendant 2 ans. Les expériences montreront si ce nouveau type d'habitat offre une protection efficace contre les températures extrêmes, les radiations solaires et cosmiques, ainsi que les débris spatiaux. Le BIM, c'est son nom, a reçu sa première visite lundi par l'astronaute Jeff Williams. Une vidéo montrant l'expansion complète de BIM est à retrouver sur la page Facebook de la Tête au Carré.